La Sabine Radio Courtoisie. Bonjour, au micro de la Berlin Laurence, dans le cadre de ce libre journal des traditions de l'après-midi, puisque nous avons maintenant deux émissions, une l'après-midi et 15 jours après, une en soirée. Pour cet après-midi, nous aurons la joie de recevoir à 14h l'abbé Mathias Yell, qui nous vient de Dijon et même de Besançon. Il va nous expliquer comment il restaure la chapelle de la Visitation de Besançon. Puis je recevrai vers 14h30 François-Régis Legrier, qui lui nous parlera de l'ouvrage qu'il vient de faire paraître aux éditions Via Romana, Saint-Louis, modèle des chefs d'État. Et je recevrai vers 15h Christian de la Forêt d'Yvonne, qui est responsable du Centre grégorien Saint-Pilis et qui nous parlera des sessions de chant grégorien dont il s'occupe. Monsieur l'abbé, bonjour.
Bonjour, monsieur l'abbé.
Alors, Besançon, la Visitation. D'abord, peut-être pour les auditeurs de Radio Courtoisie, qu'est-ce que c'est que la Visitation?
Eh bien, il s'agit de l'ordre qui a été fondé par saint François de Sales et saint Jean de Chantal en 1610, le premier couvent étant à Annecy. Et cet ordre de la Visitation, qui s'appelle aussi donc, la Visitation Sainte-Marie, donc ça a donné les religieuses qu'on nomme les Visitandines, et elles se sont au fur et à mesure développées dans toute la France, si bien qu'en Bourgogne et Franche-Comté, il y avait dans les années 1650 déjà 5 couvents de religieuses. Et donc une très grande expansion grâce à certains charismes de saint François de Sales et saint Jeanne de Chantal.
Alors, celle de Besançon qui vous intéresse, elle est située où dans la ville déjà? Parce que, donc c'est la chapelle au fond du couvent de la Visitation.
Exactement. Elle se retrouve actuellement aux 5 rue du Général Sarail, juste à côté des régiments, ce qu'on appelle le quartier Ruti. L'état-major de brigade et de la première division et la 7e brigade. Et les religieuses se sont implantées là dans les années 1660, parce qu'elles sont arrivées... Alors, il faudrait refaire toute l'histoire, mais elles sont arrivées à Besançon la première fois en 1630, le décret d'installation, le 20 août 1630.
Alors, la chapelle qui... vous préoccupe, puisque vous cherchez vraiment à la restaurer, elle date de quelle période? Elle est de fondation ou plus tardive?
Elle date de 1676. 1676, c'est le 19 octobre, la consécration de l'église. Mais avant d'arriver là, à cette consécration de cette chapelle, il faudrait raconter peut-être l'apparition des Visitandines à Besançon, parce que c'est très intéressant. Tout est parti d'une sainte femme qui s'appelait Madeleine Adelaine. Et elle souhaitait vraiment rentrer dans l'ordre de la Visitation, fascinée par ce nouvel ordre et saint François de Sales. Donc elle est allée voir à Annecy en 1620. Et il lui a dit « Votre place n'est pas à Annecy, à Besançon. Et lorsque le bon Dieu décidera, ayez patience, ma fille. » Vous pourrez ouvrir, vous installer, et nous ouvrirons donc un couvent à Besançon. Et alors, elle a insisté, donc là on est en 1620. En 22, elle apprend que Sainte-Jeanne de Chantal est de passage à Dijon. Alors elle accourt, elle va la voir, et elle ne voudrait pas se déplacer à Besançon. Et tout le monde dans la ville de Besançon, Madeleine Adelaine, la prend un petit peu pour une folle même à la fin, parce qu'elle va essayer de rameuter tout le monde pour fonder un ordre sur place. Et ça ne passe pas. Parce que Besançon, c'est une ville impériale espagnole. L'évêque de Besançon, l'archevêque Ferdinand de Ry, ne voit pas bien. Enfin, sans cette intrusion française avec un évêque qui vient, donc saint François de Sales, du royaume de France, il ne voudrait pas qu'il arrive dans cette cité espagnole qui s'est fait envahir par les Français. On est dans la guerre de 30 ans, et puis à partir de 36. On aura ensuite la guerre des 10 ans à Besançon. Donc, on est envahi par la France et on cherche à s'en protéger. Alors, on voit ça un petit peu d'un mauvais œil. Et en 1626, vous avez Saint-Jean de Chantal qui passe à Besançon. Et alors là, il y a un retournement de situation. La ville est complètement conquise par cette femme. On s'arrache des morceaux de ses habits. Et elle dit « Sortons d'ici, ce peuple se méprend ». Je ne suis pas ce qu'il pense. Voilà. Et donc, elle a une grande humilité. Et le chapitre de la cathédrale va même lui donner accès au suaire de Besançon pour qu'elle puisse le vénérer. Donc, on est en 1626. Et là, vous avez Madeleine Adelaine qui a rameuté tout un ensemble de filles qui souhaitent rentrer dans le couvent de la Visitation. Et elles arrivent à 80 pour faire le siège de Sainte-Jeanne de Chantal. Et là, c'est très beau parce qu'elle les prend une à une. Et elle va en sélectionner 36 qui toutes ensuite vont persévérer dans le couvent des Visitandines. Et donc il y a vraiment et c'est ce qui va ensuite arriver. Enfin, on va arriver à une certaine unanimité autour de Sainte-Jeanne de Chantal. La population va être retournée. Ferdinand de Ry, l'archevêque, va être finalement conquis par les nobles, les influences des différentes familles, parce qu'il y a des filles qui sont intéressées pour rentrer dans ce nouveau couvent, ce nouvel ordre. Et au fur et à mesure, les tensions vont s'apaiser. Et même la municipalité, en 28, va autoriser l'installation. Et on va demander la permission à l'empereur d'Allemagne, et qui est Ferdinand II, si mes souvenirs sont bons, et qui va dire qu'effectivement, ce nouvel ordre de la Visitation Sainte-Marie lui plaît parce qu'on est en terre qui est envahie par les protestants, et donc de mettre la Sainte Vierge au milieu de tout ce pays sera un gage de protection. Et c'est la raison pour laquelle donc l'archevêque autorisera, et ensuite la municipalité. Et à ce moment-là, en 1630, il y a 11 religieuses qui viendront de Dijon, la Visitation de Dijon, et qui vont s'implanter à Besançon.
Et vous, vous avez découvert cette chapelle parce que vous exercez votre ministère à Besançon. Vous êtes attaché au prieuré de la Fraternité Saint-Félix à Dijon, mais vous êtes détaché à Besançon.
Oui, tout à fait. Alors, la découverte de cette chapelle, bien, c'est toute la raison de notre acquisition, parce que il y a toute une histoire, en fait. Elle est consacrée en 1676, donc ça fait 350 ans cette année. Les religieuses vont occuper cette église jusqu'à la Révolution française. Là, elles sont chassées. On a toute la liste, elles seront 222 religieuses et 20 prieurs jusqu'en 93. Et après, elle sera transformée en hôpital militaire, ensuite désaffectée, ensuite transformée en faculté de lettres, pour arriver en 2016, elle sera vendue aux enchères par la ville, et c'est là que la fraternité va l'acquérir et lancer des gros travaux pour la faire revenir à sa destination première, le culte catholique traditionnel.
Alors, quand vous dites gros travaux, j'imagine que quand c'était un amphi de faculté de lettres ou quand c'était même un hôpital militaire, on avait aussi certainement un petit peu défiguré le bâtiment.
Ah, complètement. Le bâtiment, après l'hôpital militaire, a été désaffecté à partir de 1860 et quasiment pendant un siècle. On ne sait pas quoi faire de ce bâtiment. Et dans les années même 80, 1980, le rectorat va essayer de lui donner une nouvelle vie en demandant à l'architecte Gauthier de le transformer en faculté de lettres. Et là, le béton coule à flot dans l'église. On va mettre des... À mi-hauteur de nef, on va couler des gradins pour faire un premier amphithéâtre et un deuxième au-dessus, ce qui fait à peu près 400 places dans la chapelle. Et le béton donc coule à flot et on va défigurer des corniches, des moulures, des chapiteaux dans l'église. Et notre travail consiste, pour la faire revenir à sa fonction première, réhabiliter surtout le volume de la nef. Donc les entreprises ont dû couper, sortir des blocs de béton de l'église, donc l'équivalent de 429 tonnes de béton. Donc c'était assez important comme travaux de restauration. Et actuellement, ça c'était la première phase, d'évacuer, de retrouver le volume. Et la deuxième phase, c'est de restaurer les chapiteaux, les corniches, les moulures endommagées dans l'église. Et actuellement, lundi, on a choisi la couleur du crépi, des enduits intérieurs. Et ils ont déjà mis toute la première couche à 90% du volume de l'église.
Alors, je sais que vous avez visité il n'y a pas longtemps Notre-Dame de Paris, où on a vu que des compagnons du devoir avaient gardé des techniques ancestrales qui avaient permis justement de restaurer la cathédrale de Paris. Est-ce que vous avez, vous aussi, à Besançon, fait appel à des artisans? Et est-ce qu'on trouve toujours des personnes capables justement de restaurer ces chapiteaux dont vous disiez à l'instant qu'ils avaient été complètement occultés, voire défigurés?
Ah oui, l'entreprise avec laquelle on travaille à Besançon, en Franche-Comté, c'est l'entreprise Pateux et Robert. Et il y a des tailleurs de pierre et il y avait un escalier qui descendait à travers, qui perçait la voûte pour arriver jusqu'au sol. C'était un escalier d'évacuation, un escalier de secours. Et donc, il a fallu refermer la voûte, refaire les ogives, les nervures. Et là, on a un ouvrier qui était absolument passionné, qui a dit c'est un énorme privilège. C'est peut-être un ouvrier de... Il a dit c'est la deuxième ou troisième fois dans ma vie que j'ai l'honneur de terminer un cintre, d'achever une voûte, de la reconstituer. Le but, c'est qu'on ne voit pas, qu'on ne s'aperçoive pas qu'avant, cette voûte était complètement percée, endommagée. Et donc, aujourd'hui, je dirais, le travail est très bien fait. Les nervures sont tout à fait dans l'alignement. Le ton de la pierre, ils ont trouvé vraiment celui d'origine. On pourra reparler encore des pierres, si vous voulez. Et pour retrouver, finalement, ce volume de la nef d'origine.
C'est un chantier de combien d'années? Enfin, vous avez commencé quand et vous espérez finir quand?
Là, on a mis beaucoup de temps à commencer parce que c'était des grosses études et puis il fallait savoir exactement jusqu'à combien on allait restaurer les pierres, les corniches, les chapiteaux endommagés. On l'a acquis donc il y a déjà 10 ans et on espère que dans moins de 2 ans on y sera. Voilà, et on a commencé surtout les travaux sur toute l'année 2024. On a fait une pause en 2025 et là on est reparti pour 10 mois plein. Sur la deuxième phase du chantier avant la troisième.
Alors, vous vouliez parler des pierres. Qu'est-ce qu'il y a de particulier?
Parce que la ville de Besançon, à l'époque, était construite en bois. Et en 1569, il y a un décret municipal qui demande la construction en pierre. Parce que, en fait, quand il y avait un incendie, c'est des quartiers antiques qui flambaient, qui partaient en fumée. Et donc, on a fait appel à une pierre locale, la pierre du bois de Chahut, des carrières. Et c'est une pierre qui a une particularité qui est très belle. C'est tout le fond de Besançon qui est construit de cette manière. Elle a un ton beige ocre et en même temps bleu gris. Et il y a des nervures à l'intérieur de la pierre qui font que, voilà, une certaine élégance. Et ça donne une unité dans toute la ville de Besançon. Et les nervures, parce que la voûte est recouverte de... c'est une voûte à ogive, à nervures étoilées. Elle est recouverte de ces pierres, donc avec une alternance de bleu et d'ocre, de beige ocre, qui lui donne une certaine élégance, une certaine finesse, une très belle acoustique pour le chant grégorien notamment. Et c'est ce qui donne tout ce caractéristique de la ville de Besançon et aussi de cette chapelle. Donc une certaine élégance, une sobriété monastique avec ses nervures soulignées par le ton de la pierre. C'est très joli, il faudra venir voir.
Alors ce que j'allais vous demander, parce que vous donnez terriblement envie aux auditeurs de Radio Courtoisie, est-ce qu'on peut visiter? Est-ce que vous organisez une journée du patrimoine? Est-ce que le chantier est interdit au public? Est-ce qu'on peut le visiter avec le casque obligatoire, bien sûr? Ou alors, avez-vous fait des photos? Est-ce qu'il y a un site? Dites-nous tout.
Alors, le chantier actuellement, l'église est recouverte d'échafaudages, 35 tonnes d'échafaudages. Donc, on ne voit pas grand-chose des pierres parce qu'elle est en pleine restauration. Les échafaudages permettent d'accéder aussi bien à la voûte que sur tout le pourtour de l'église intérieure, le pourtour intérieur. Et donc, actuellement, le chantier est interdit au public. Par contre, il y a le site de la Fondation du patrimoine avec lequel nous sommes en partenariat, les Visitandines de Besançon. Et après, sur Internet, on est passé aussi sur France 3. Il y a quelques articles dans les journaux. Il suffit de taper Visitandines de Besançon et on retrouve toute une recension, aussi avec quelques photos qui donnent une idée de la beauté de cette chapelle.
Alors, vous parlez de pierre, d'architecture, mais je sais aussi que il y a la restauration d'un tableau qui vous tient à cœur.
Alors, c'est plus qu'une restauration, parce qu'il s'agit d'une création.
Oui.
Alors là, c'est une très belle histoire. À l'époque, les religieuses, en 1670-72, ont fait appel à un artiste bourguignon, parce qu'il y avait des visites en ligne, on a dit à Dijon, qui s'appelait l'artiste sculpteur Jean Dubois, qui est connu au niveau local. Et il est venu à Besançon, et les sœurs ont lui demandé de créer un retable. Un retable qui a fait l'admiration d'ailleurs de Vauban, parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais la Franche-Comté a été envahie par les Français, par Louis XIV, en 1674. Et Vauban, qui est venu par après, en 78, restaurer la citadelle, s'est émerveillé, est venu assister à la messe, s'est émerveillé devant cet hôtel de Jean Dubois, un retable. On sait, et on n'a plus de traces aujourd'hui, il a disparu à partir de la Révolution. On sait qu'il a coûté 604 francs. On a une description, il y avait 8 colonnes en corinthien, il y avait un tableau de la Trinité et un tableau de la Visitation. Et c'est ce qui nous a inspiré, puisqu'on est dans une église des Visitandines, de faire une création, puisque nous faisons plus que restaurer, mais nous innovons. Donc, par une création d'un tableau, on a découvert un artiste qui s'appelle Thierry Marquis, qui s'est fait connaître à travers un tableau religieux à Poligny, l'église des Jacobins. Il a fait une Assomption de la Vierge et en 2021, je crois. Et suite à cela, on l'a rencontré, on lui a demandé donc un tableau de la Visitation pour notre église à Besançon. Et donc là, on lui a passé commande. Il nous a d'abord édité des esquisses qu'on a travaillées et puis avec certaines particularités qu'on a voulu inscrire dans le tableau, et au fur et à mesure, eh bien, le tableau a pris forme, et aujourd'hui, il a 80% de son achèvement, et ça, c'est vraiment une chose qu'il faudra venir voir. Alors, le tableau, on pourrait expliquer deux, trois petites choses à ce sujet. Donc, c'est une scène, la Visitation, très joyeuse, puisque à la fin de la fête de l'Annonciation que l'on célébrait hier, n'est-ce pas, le 25 mars, donc 9 mois avant Noël, l'ange Gabriel enjoint la Sainte Vierge de rendre visite à sa cousine Élisabeth, qui elle-même a conçu dans sa vieillesse. Et alors, lorsqu'elle arrive devant Élisabeth, Élisabeth s'exclame « D'où me vient-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Il y a cette salutation chaleureuse. Et donc, vous avez en premier plan du tableau ces deux femmes, la Sainte Vierge qui porte Jésus, et ensuite Élisabeth qui porte Jean-Baptiste. Et elle se salue chaleureusement, mais à travers la salutation des deux mamans, en fait, il y a la rencontre de Jean-Baptiste avec Jésus, qui, nous dit l'Écriture, l'Évangile, Jean-Baptiste tressaillit en son sein à la parole de la Sainte Vierge qui portait Jésus. Et alors là, pour matérialiser cela, il y a un mouvement des mains qui vous fait converger votre regard au centre du tableau, là où se trouve Jésus. Il y a un petit jeu de lumière qui le met en valeur, sa présence. Et vous avez Élisabeth qui porte la main auprès de son enfant pour manifester ainsi ce tressaillement. Et en arrière de ces deux mères qui se saluent, la Sainte Vierge et Élisabeth, vous avez les deux Marie, donc Zacharie et Joseph. Et c'est une chose qui interroge toujours, mais Saint Joseph est-il présent lors de la Visitation? Et alors, j'ai regardé beaucoup de tableaux, je suis notamment allé à Rome, et on pourrait dire peut-être que Saint-Joseph se trouve au moins dans un tiers des tableaux présents, parce qu'on peut penser qu'à l'époque, on n'aurait jamais envoyé une femme seule marcher 3 jours dans le désert, elle avait quasiment, on dit, une centaine de kilomètres, pour se rendre auprès de sa cousine Élisabeth, et donc la présence de Saint-Joseph. Et après ce tableau lui-même, il est placé dans la ville de Besançon, puisqu'on intègre toujours l'art dans le patrimoine local, et vous apercevez en perspective, en fond du tableau, la porte noire, la porte romaine de Besançon qui caractérise la ville, et ensuite le clocher de la cathédrale qui manifeste notre attachement à l'église.
Et cela, on peut déjà le voir, ou quand sera le vernissage?
Alors, le tableau, là, il est dans l'atelier de l'artiste, Thierry Marquis, donc il est entre Angers et Nantes, il n'est pas en Bourgogne, Et il y a une conférence-exposition dans le village de Vallon de l'Erdre qui a eu lieu en septembre 2025. Et actuellement, si on demande à l'artiste, il acceptera sans doute de nous le montrer, mais il n'est pas encore exposé au public. Il est en cours de séchage avant de lui mettre un enduit pour terminer et lui une espèce de vernis pour renforcer les contrastes et je veux dire qui caractérisera l'achèvement du tableau.
Alors, on voit que vous êtes très, très impliqué dans ce chantier. Vous en parlez avec passion et avec précision. J'ai envie de vous demander, vous avez fait les beaux-arts avant d'entrer au séminaire?
Non, mais au séminaire, on a appris, on a eu des cours d'art, et puis après, c'est toujours passionnant de participer à une création, donc on y prend goût. J'ai eu l'occasion de rencontrer notamment Sophie de Gourcy, qui est professeure en histoire de l'art, qui nous a conseillé, elle a écrit un livre notamment, Apprendre à voir la nativité. Et ce livre m'a beaucoup inspiré parce qu'il y a plein de petits détails. Qui explique, elle fait des commentaires de grands artistes peintres, en commençant par Angelico, passant par des Flamands et différentes œuvres comme cela. Et je crois qu'elle y a pris goût aussi, elle est venue voir notre tableau donc chez Thierry Marquis. Et peut-être elle mûrit aussi le d'éditer un livre, apprendre à voir aussi la Visitation. Et voilà, ça lui donne des idées et ça lui permettra un jour peut-être de sortir un nouvel ouvrage. Et elle a été, voilà, c'est l'occasion de réflexion, de pouvoir, voilà, lorsqu'on fait une création, il faut penser à tous les détails et on ne se rend pas compte parce que où est-ce qu'il y a des vides à combler, il y a comment des perspectives, où est-ce que je place même le mouvement des mains, l'artiste est, je veux dire, remarquable pour cela.
Et alors, de façon très concrète, cette chapelle que vous restaurez donc à Besançon, celle de la Visitation, vous permettra d'accueillir combien de fidèles dans 2 ans, puisque vous allez ouvrir dans 2 ans?
Eh bien, on aura facilement 150 places à l'intérieur. Ça reste une chapelle de couvent, donc c'est pas une église paroissiale. Après, il y a des tribunes qui restent parce que avec ces gradins, il y avait une desserte par des escaliers dans la première travée de la chapelle, et ces escaliers, nous les avons maintenus, ce qui nous fait encore, ce qui est un petit peu original, mais 2 tribunes, ce qui permet davantage encore de contenir un petit peu de public. Enfin, la chorale sera notamment au premier degré, et ce qui nous donne une certaine capacité. Et l'église a à peu près une hauteur de 12 mètres sous voûte, donc ça n'est pas trop grand, et c'est l'idéal pour le chant grégorien.
Alors, est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs de Radio Courtoisie qui sont passionnés par votre enthousiasme, est-ce qu'on peut vous aider? Vous avez parlé de la Fondation de France, donc vous êtes soutenu par la
Voilà,
Fondation
on
de
est en
France.
collecte avec la Fondation du patrimoine. Il
D'accord.
suffit de taper Fondation du patrimoine. Ils vous demandent quelle œuvre voulez-vous soutenir. Bah, la visite andine de Besançon. Et là, vous avez une collecte de fonds. Il suffit de donner. Et vous
Et là,
avez nos remerciements.
on peut dire que vous allez même un jour organiser une opération caritative qui n'est pas encore au point, mais que vous avez l'intention d'organiser pour essayer de récolter quelques fonds.
Oui.
C'est ça. Donc, mais ça, c'est mystère. Il faut attendre un
Voilà,
petit
on
peu.
attendra.
Voilà, exactement. Donc, là, en attendant, où est-ce que vous dites la messe en attendant que cette chapelle soit prête
Alors actuellement, nous sommes dans un espèce de petit hangar aménagé au 14 rue Lyautey à Besançon. Et les fidèles attendent avec impatience d'arriver dans cette chapelle, puisque cela fait déjà 10 ans qu'on leur parle des travaux qui vont se faire. Et puis, en fait, ça fait déjà pas mal d'années que, bah, on espère y parvenir. Et là, on n'a jamais été aussi près du but, mais on n'est pas encore au bout, puisqu'il y a une troisième phase, après la deuxième, dans laquelle nous sommes aujourd'hui. La troisième phase qui est de... Bah, ce tableau que l'on a déjà créé, il va falloir l'entourer et l'insérer dans un retable. Donc, il y a la création d'un retable avec notamment l'entreprise Nonote, qui sont une entreprise qui fait du staff, de l'intégrer. Le but, c'est, comme il y a des nervures dans l'église, des corniches, un ton de pierre, la pierre de Chaput, il va falloir. Le but est que quand vous rentrerez dans l'église, vous venez nous visiter à Besançon. vous aurez l'impression que ce retable et ce tableau seront là depuis toujours. Donc elle s'intégrera, le retable, parfaitement, harmonieusement dans le bâtiment, si bien que les lignes feront... Il y a le nombre d'or qui a été prévu par notre architecte pour que tout soit parfaitement calibré et harmonieux, paisible, pour favoriser la prière, le chant et la contemplation.
Est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs ce que c'est que le nombre d'or? Ça n'est pas un appel de fond, ça n'est pas une demande pour qu'on vous offre des lingots. Qu'est-ce que c'est le nombre d'or?
Le nombre d'or, eh bien, c'est une... il a été inventé, trouvé par les Grecs notamment. Il y avait trouvé une certaine proportion, une certaine harmonie dans les bâtiments. Alors, je n'ai pas la formule par cœur, mais qui fait que lorsque plus vous mettez ce nombre d'or, donc cette proportion dans vos volumes et dans l'espace de l'église, plus vous aurez une certaine harmonie et plus voilà, il y aura d'élégance finalement dans l'édifice. Et notamment tous les temples grecs, les lignes, les frontispices de temples sont conçus justement avec cette proportion du nombre d'or qui est très connue dans le domaine de l'architecture.
Et est-ce que vous êtes en rapport avec la visitation de moulins? Vous savez que j'ai reçu à plusieurs reprises le conservateur. Il recueille tous les ornements parce que malheureusement beaucoup de couvents ont fermé et pour que ça ne se perde pas. Est-ce que vous avez eu des contacts? Il organise chaque année d'ailleurs une exposition temporaire.
J'ai hâte un jour d'aller voir un moulin pour visiter notamment tous ces ornements. Je sais que ça existe. J'ai déjà plusieurs connaissances qui ont eu l'occasion de le visiter. Chaque année, ils éditent un très beau livre avec les ornements, des
pièces d'orfèvrerie aussi, c'est ça, des bâtons.
Et voilà, ça fait partie des choses qui restent à faire.
C'est-à-dire que vous êtes déjà plus ou moins aumônier de la visitation.
Si vous voulez, comme l'abbé Magnien, Jacques Magnien, qui était le premier aumônier du couvent à l'époque, quand les sœurs se sont installées en 1660.
Parce que vous-même, vous êtes originaire de quelle région?
Alors moi, je viens d'Alsace, donc c'est juste un peu au nord, à 1h30 de route, village de Münster exactement. Et cela fait 10 ans que je suis sur place à Besançon, c'est toujours mon premier poste de ministère, depuis mon ordination 2016, donc j'y suis parfaitement intégré, je m'y plais très bien.
Et bien que vous soyez dans la France de l'intérieur, comme on dit, c'est ça, en Alsace.
Là, c'est ça.
Et vous voyez donc ce projet aboutir au bout de 2 ans. La troisième phase, donc, vous nous avez montré, au fond, ça va être un petit peu, on va dire, la décoration à l'intérieur, comme ça. La question que je vous repose, vous trouvez toujours les artistes et les artisans où il y a des moments... on dit non, là, on ne sait plus faire, ça n'est plus possible.
Là, on est dans la restauration de pierre, le gros œuvre, les chapiteaux. Alors là, l'entreprise Pateuil Robert sait faire, il n'y a aucun problème. Je pense que, notamment avec Notre-Dame, qui a redonné encore une ferveur dans la restauration de l'art, mais je trouve qu'aujourd'hui, on a des artistes de beaucoup de talent. Et donc, c'est toujours... non, pas eu de difficulté. Et on est très content d'avoir notamment découvert Thierry Marquis. On est très content de sa création. Et si je pouvais lui commander d'autres choses, pourquoi pas? Et ça ne dépend pas que de moi.
Il y avait ce que vous disiez, cet artisan, c'est aussi un petit peu, pour eux, le chantier d'une vie. Enfin, on ne fait pas ça tous les jours. Et c'est ce que disaient les compagnons à Notre-Dame en disant... On voit ça une fois dans sa vie, une fois même peut-être dans un siècle.
Oui, après la visitation à Besançon, c'est plus modeste, mais ils ont l'occasion de restaurer des églises. Ben, ça fait d'une certaine manière leur joie et aussi leur bonheur. Je parlais encore avec eux vendredi dernier. Ils disaient, mais c'est très beau que cette église revienne au culte. Et on en est très fiers finalement de travailler. Et ils ont souvent le souci de dire qu'aujourd'hui, on ne forme plus des tailleurs de pierre, peut-être comme avant, ou c'est plus difficile, ou alors moins de jeunes sont sensibles, parce que c'est un travail qui est quand même assez rude, qui est assez technique, qui demande beaucoup de persévérance. On travaille sur du long terme. Cette église a déjà 350 ans et elle reprend une nouvelle vie en revenant à sa destination première. Donc elle est repartie pour plusieurs siècles finalement. Et ce travail prestigieux de tailler la pierre, je dirais c'est pour les générations futures.
J'ai l'impression que vous avez fait votre la phrase du Grédard, n'est-ce pas ? Rien n'est trop beau pour le bon Dieu, c'est ça ?
D'une certaine manière, oui, pour la louange et la gloire de Dieu.
Est-ce qu'on peut vous joindre ? Bien sûr, il y a, comme vous dites, le site de la Fondation du patrimoine, où il y a des photos qui illustrent bien le projet. Est-ce que, si on veut vous joindre, il y a un moyen ? Vous avez une adresse internet, vous avez un site, vous avez téléphone, il y a des moyens ?
Sur la porte latine, vous avez, vous tapez les visitants dignes de Besançon, soutenez notre chapelle de la réhabilitation de la chapelle des Visitandines de Besançon. Et après, vous avez tout un déroulé avec les coordonnées, l'adresse, et vous trouvez le téléphone aussi. Et ainsi, vous pourrez nous joindre. Bon. Pas de problème.
Vous êtes traditionnel et en même temps très pratique.
Voilà.
C'est ce qu'il faut. Eh bien, la tête au ciel, les pieds sur terre.
Et le cœur vers Dieu.
Voilà. Eh bien, merci sur cette belle conclusion. À très bientôt, monsieur l'abbé.
Merci beaucoup, monsieur l'abbé.
Bien sûr, dans 2 ans, ça va sans dire.
Oui, tout à fait.
Peut-être même avant, d'ailleurs.
Et vous nous rendrez visite avant, bien sûr.
Sûrement. Merci beaucoup.
Merci, au revoir, monsieur l'abbé.
Nous allons entendre le message de la radio pour la radio.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Chers amis, vous avez entendu, on a besoin de vous, on compte sur vous. Je ne vous en dis pas plus, si, je vous dis merci d'avance. J'ai la joie maintenant de recevoir François Régis Le Grier qui nous offre un très très beau livre, petit mais un grand livre, Saint-Louis, modèle des chefs d'État. Je peux vous le dire, on est un petit peu saturé d'informations politiques ces temps-ci avec les municipales. Et là, on a une bouffée d'oxygène quand on lit votre livre, François Régis Le Grier.
Bonjour monsieur l'abbé.
On se retrouve sur des sommets, on se dit ah oui, là, c'est ça la politique et même le politique.
C'est donc ça.
C'est ça, voilà. C'est pas simplement des magouilles, des coups tordus et des petites phrases assassines. On a l'impression d'être sur un sommet et là les miasmes de la vie politique ambiante s'estompent.
Oui, tout à fait. Écoutez, j'ai écrit ce petit livre. D'abord, je l'ai voulu effectivement petit et facile à lire, parce que je sais que le temps aujourd'hui nous est compté entre le smartphone, Internet, etc. Il reste peu de temps pour la lecture, donc ce peu de temps, j'ai essayé de le combler avec un petit livre. Et la première raison, c'est le 800e anniversaire du sacre de Saint-Louis cette année, le 29 novembre prochain. Donc c'est vraiment ce qui m'a poussé à écrire ce livre en témoignage et en l'honneur de ce grand roi de France. Et puis, je crois que ce livre aussi ne pouvait pas mieux tomber en raison du contexte à la fois international et national que l'on constate aujourd'hui avec ces appétits démesurés de puissance que l'on observe dans la géopolitique mondiale entre la Chine, les États-Unis, la Russie, j'en passe, c'est des meilleurs. Et puis aussi au niveau national, au niveau interne, où l'on voit quand même un certain nombre de difficultés. Et d'une certaine manière, Saint-Louis, Louis IX, a été peu ou prou confronté aux mêmes difficultés au XIIIe siècle. Alors on a tendance souvent à idéaliser le passé, c'était un siècle difficile, avec des grandes puissances déjà qui à l'époque se déchiraient entre elles, je pense en particulier au Saint-Empire romain et à la papauté, on en reparlera si nous avons le temps. Aux difficultés internes, avec des barons parfois assez remuants qu'il a fallu remettre au pas, en usant de la force, mais pas trop, en étant aussi diplomate. Et puis un royaume à pacifier, notamment dans le sud, après la croisade des Albigeois, qui avait quand même laissé des traces assez dures. Hein. Voilà, donc pour toutes ces raisons, j'ai voulu ce petit livre et montrer que il y a un chemin possible en politique pour concilier justement les valeurs de l'Évangile, les valeurs chrétiennes, au service du politique, en étant à la fois, comme vous le disiez juste avant, la tête au ciel, mais les pieds sur terre, parce qu'il n'y a pas plus concret que Saint-Louis dans l'action politique. Voilà.
Et alors, au début d'ailleurs de l'ouvrage, vous, dans votre avant-propos, vous dites bien, ça peut paraître surprenant, comment est-ce qu'on va chercher au XIIIe siècle un modèle pour le XXIe siècle ? On a l'impression que là, vous allez chercher quelqu'un qui fera figure d'extraterrestre. Et ce que vous voulez au fond, et c'est ce que vous faites, et que vous réussissez à très bien faire, c'est que vous voulez montrer que c'est un modèle pour aujourd'hui et pour les chefs d'État. En clair, c'est le livre qu'il faut offrir à Trump, à Poutine, à Macron et aux autres.
Mais oui, si ces gens lisaient, je me ferais une joie de leur offrir, mais je ne sais pas. Mais oui, c'est une leçon pour notre époque. C'est le modèle des chefs d'État et même des chefs en général, parce que c'est une magnifique leçon d'autorité sur l'exercice de l'autorité que nous offre Saint-Louis. Et si vous voulez bien, je voudrais m'arrêter deux secondes sur la couverture, parce qu'il y avait plein de choix possibles. On aurait pu choisir Louis en majesté ou Louis, il y a des très beaux tableaux de Saint-Louis débarquant à la croisade devant Damiette, de l'eau jusqu'au cou, à la tête de ses chevaliers. C'est l'image du roi chevalier, héroïque, etc. Ou on pourrait prendre la bataille de Taillebourg aussi. Et donc j'ai choisi cette illustration d'un peintre du 19e siècle qui s'appelle Pierre-Narcisse Guérin. C'est un tableau d'ailleurs qui n'a jamais été ni payé ni terminé. Voilà, d'où parfois ça, peut-être une certaine impression dans les couleurs, mais où l'on voit Saint-Louis assis quasiment par terre avec, toute cette foule autour de lui rendant la justice sous son chêne à Vincennes. Et ce tableau illustre vraiment ce que Boniface VIII... le pape Boniface VIII disait de Saint-Louis, donc pour son procès de canonisation, que je vous cite, hein, « Combien grande fut sa justice, cela apparut manifestement non seulement par des exemples, mais on pouvait le toucher du doigt. Il s'asseyait en effet presque continuellement par terre sur un tapis pour entendre les causes judiciaires, surtout celles des pauvres et des orphelins, et il leur faisait rendre complètement justice. » Et c'est exactement ce que ce tableau illustre, on voit des jeunes enfants, enfin voilà, des mères éplorées, et c'est vraiment cette présence de Saint-Louis que j'ai voulu particulièrement exprimer dans cette couverture, parce que son autorité était vraiment à la fois une présence et un exemple extrêmement édifiant, présence évidemment pour ses proches, sa famille, ses enfants aussi, sa cour, ses conseillers, ses gendarmes, enfin ses chevaliers. Une présence aussi qui va même jusqu'aux morts, parce qu'il y a un exemple qui est vraiment très émouvant, hein, qui est bouleversant, où Saint-Louis est en Terre Sainte et une garnison chrétienne se fait massacrer par les Mamelouks. Donc Saint-Louis avec un autre contingent se rend sur place. Là, il y a plusieurs centaines de cadavres qui sont déjà en train de se décomposer après plusieurs jours au soleil, etc. Et donc, je peux vous dire que les chevaliers, ça leur fait pas envie, quoi. Et voilà. Et Saint-Louis, le premier, se met la main à la pâte pour aller, en fait, enterrer ces cadavres, les ramasser. Il faut les mettre dans des sacs, les transporter, creuser une fosse commune, etc. Et il donne l'exemple, littéralement. Je ne connais pas d'autres exemples de rois, s'étant autant investi comme ça dans le quotidien. Il va aussi avec, quand il faut relever les fortifications en Terre Sainte, il est le premier à porter les moellons, à donner l'exemple, etc. Enfin, c'est, et donc cette présence et cette exemplarité de Saint-Louis dans l'exercice de l'autorité, elle est vraiment très 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 forte, très belle, et elle est directement inspirée du Christ au milieu de ses apôtres, quoi.
Voilà. Alors, dans l'ouvrage, qui est un ouvrage d'histoire, vous rapportez très très bien en détail la vie de Saint-Louis, vous montrez effectivement ce côté exemplaire, mais vous avez le souci à chaque fois de montrer que c'est encore actuel, que ça peut encore... Et là, je voudrais citer un auteur, et venant de vous, ça ne m'a pas étonné, Albert Camus, L'Homme révolté.
Oui.
J'aimerais bien que vous nous expliquiez, je sais, tout l'intérêt que vous avez pour Camus, et surtout pour L'Homme révolté. Et je voudrais que vous nous fassiez une petite explication de texte. Voici ce que vous citez. « La révolution des principes tue Dieu, dans la personne de son représentant, le roi. La révolution du XXe siècle tue ce qui reste de Dieu dans les principes eux-mêmes. et consacre le nihilisme historique, quelles que soient ensuite les voies empruntées par ce nihilisme dès l'instant où il veut créer dans le siècle, hors de toute règle morale, il bâtit le temple de César. Bon, venant de Camus, qui n'est pas un dévot, il faut quand même l'avouer.
Camus n'est pas une grenouille de bénitier, loin de là, mais ce qui est passionnant chez Camus, c'est que dans ses auteurs agnostiques, c'est celui qui a le mieux compris ce qu'était l'essence profonde de la Révolution française et de toutes ses conséquences au XXe siècle, les soviétiques, etc., avec tout cet bouleversement des mentalités qu'on a vu, et ce nihilisme qui se met en place, et la conséquence très concrète, c'est finalement cette extension indéfinie du pouvoir temporel, c'est le royaume, enfin le temple de César qui ne fait que s'agrandir, puisqu'on ne lui oppose plus aucune limite, ni morale, ni religieuse. Alors, on a beaucoup glosé sur les relations entre le pouvoir temporel et spirituel. Il est vrai que à l'époque médiévale, il y a pu avoir des abus dans l'autre sens, et Louis IX était un des premiers d'ailleurs à s'insurger contre ces abus, parfois, de que ce soit le pape ou les évêques, etc.
Et vous le montrez dans votre livre, je tiens à le dire, c'est pas une hagiographie qui oublierait. Non, vous montrez très précisément ce qu'il a pu faire.
Mais il a parfaitement compris, en fait, quelle était la source de son autorité, qui lui est donnée, qui lui est conférée par le sacre, hein, c'est-à-dire que la légitimité du roi de France à gouverner, c'est l'hérédité, c'était une chose, mais c'est surtout, bien évidemment, le sacre. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu aussi commencer ce livre. Le premier chapitre est dédié vraiment à la signification politique et spirituelle du sacre, pour bien comprendre quelle est la source profonde de la légitimité royale, de la légitimité du roi à gouverner. Et Saint-Louis, il me semble, a fait partie de ces rois qui a su trouver une limite qui n'est jamais évidente, il faut bien le reconnaître, entre les deux pouvoirs, et c'est une des leçons que je tire à la fin du livre, entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Alors, sa force, en quelque part, c'est que Saint-Louis est un roi extrêmement pieux. On ne peut absolument rien lui reprocher, notamment sur le plan matrimonial. Il était d'une fidélité exemplaire à sa femme, contrairement à un certain nombre de rois de France. Et il pratique largement les aumônes envers les ordres religieux, etc. Et donc, ça crée évidemment les conditions pour que sa parole soit entendue et respectée. Et donc, quand il doit poser des limites à certains empiètements, parfois du clergé, enfin de certains évêques, souvent, et puis même parfois il a eu affaire avec le pape, sa parole n'en est que plus respectée. Mais en aucun cas, il ne lui viendrait à l'idée de dénier en fait cette filiation spirituelle vis-à-vis de l'Église. C'est vraiment un fils soumis de l'Église, mais parce qu'il est un fils soumis de l'Église, il sait aussi faire la distinction entre ce qui relève de l'Église et de l'État. Alors, vous avez cité Albert Camus, effectivement, vous le savez, c'est un de mes auteurs fétiches, et je cite également Soloviev, qui avait fait cette distinction que je trouve très, très pertinente sur la triple manifestation du mal. Quand un homme attente à la vie d'un autre homme, quand une classe sociale opprime, en opprime une autre, et quand une nation en opprime également, cherche à attenter à la vie d'une autre nation, et Saint-Louis fait triompher, enfin s'attache à installer la justice dans ces trois domaines, et donc ça, on en reparlera, c'est sa réforme sur la justice et la grande ordonnance de 1254, c'est la prise en compte de cette nouvelle classe sociale. Le mot est peut-être un peu exagéré pour l'époque, mais en tout cas, on parle de la bourgeoisie, des grandes villes, etc. Donc tout ça, il le prend en compte. Il les fait participer, notamment dans le domaine économique et monétaire, à la vie du royaume. Et puis, sur le plan international, c'est, pour reprendre des mots qui parlent un petit peu aujourd'hui, à notre époque, c'est le règne de Saint-Louis. La France est une puissance d'équilibre avant la lettre. C'est vraiment ça. Il faut quand même se rappeler que le pape, qui a déposé l'empereur Frédéric, est prêt à lui donner la couronne impériale pour la famille, pour un de ses frères. Et Saint-Louis dit, non merci, j'ai assez à faire comme ça avec le royaume de France. Mais voilà, il y a une modération dans les appétits de puissance. d'autres que Saint-Louis auraient dit « je prends ouais. ». Non, il y a vraiment cette modération et cette puissance d'équilibre et cette volonté de pacifier les relations internationales, enfin pacifier les relations en interne et puis au niveau international également.
Ça, on le voit parce que vous citez le testament qu'il adresse à son fils et il dit « attention à la guerre, il ne faut vraiment la faire que si c'est nécessaire, il ne faut pas qu'elle dure ». Et on voit. Mais avant de revenir sur le testament et la mort, vous avez une page magnifique sur la mort de Saint-Louis, je voudrais tout de même dire aux auditeurs de Radio Courtoisie que je reçois François-Régis Le Grier pour son « Saint-Louis modèle des chefs d'État » paru aux éditions Via Romana, un petit ouvrage dense, très dense, de 150 pages à peu près, pour 13€ seulement. Et le chapitre 9, celui qui reprend le titre de l'ouvrage, donc Saint-Louis modèle et chef d'État, je donne les intertitres, les titres des paragraphes, parce que ça montrera bien à nos auditeurs combien vous avez le souci d'apporter des lumières à l'époque présente. Vous ne faites pas que œuvre d'historien, ou alors si c'est historien à la façon de Cicéron, c'est-à-dire que l'histoire doit être maîtresse de vie, c'est ça. Historien, oui. Magistrat vitae.
Merci pour la comparaison.
Voilà. Eh bien, vous avez l'autorité est un service, Dieu sait si c'est un service, c'est-à-dire un service rendu à autrui et non pas une façon de se servir. Je crois que ce sont des rappels utiles
oui, c'est,
aujourd'hui.
C'est servir et non pas asservir.
Exactement. Vous avez la puissance et le bon usage de la force. Vous avez patriotisme et bien commun des nations. On se demande d'ailleurs ce que devient le bien commun aujourd'hui.
Sujet fondamental aujourd'hui. Voilà. Hein, on le voit bien avec la construction de l'Union européenne. On voit bien il y a un patriotisme parfois assez étroit. Je le dis, un slogan comme « America first », chez Saint-Louis, c'est inimaginable. C'est pas « France first », non. Non, il a le souci des intérêts de son royaume, mais il a également le souci d'accomplir ses obligations internationales. Et à l'époque, ses obligations internationales, c'est celles qui s'exercent dans ce cadre géopolitique qu'est la chrétienté. Même après, on peut en définir plus ou moins les contours, mais c'est vraiment ça. D'où son action dans les croisades, etc. Donc c'est pas un rêve d'exalté ou quoi que ce soit, mais si on cherche à transposer avec ce que l'on fait aujourd'hui, quand la France a accompli un certain nombre d'opérations extérieures en Afghanistan, en Afrique et ailleurs, etc., on peut discuter du bien fondé, etc., mais elle a quelque part, si vous voulez, fait ça avec le sentiment de remplir ses obligations internationales vis-à-vis de l'ONU, vis-à-vis d'un certain nombre d'instances, etc. Après, on peut mettre de côté la pertinence, le bon résultat, etc. Eh ben, c'est exactement la même chose avec Saint-Louis, si vous voulez. L'ONU de l'époque s'appelle quelque part un peu l'Église. Voilà. Et puis, vous avez des puissances, vous avez des royaumes, un royaume latin qu'il faut aider, secourir. C'est quand même le Liban d'aujourd'hui, hein, dont on ferait bien peut-être de s'occuper un peu plus. Voilà. Et donc, Saint-Louis remplit ses obligations internationales. Il aurait pu dire, écoutez, moi, la croisade, c'est bien gentil. Il y en a déjà eu 6 avant moi. Ça n'a pas marché. Je fais prospérer en bon paysan, vous voyez, je fais prospérer ma terre et puis ça tout ira bien, quoi. Non, et voilà, il a une vision un peu plus haute de la politique que le simple fait d'être un bon gestionnaire d'une grande ferme qui s'appellerait la France.
Une start-up nation, comme on dit dans cet horrible franglais que pratique notre président. Ensuite, vous dites le rôle de l'État, ben, c'est la paix et la justice. Dieu sait si dans les banlieues, on aimerait que l'État s'occupe beaucoup de la paix et de la justice. Il y a un paragraphe sur la question sociale, donc ça aussi c'est évoqué. La grandeur spirituelle, là mon Dieu, on a l'impression que c'est quelque chose de complètement ignoré aujourd'hui. Mais alors surtout, il y a ce que vous aviez dit, la relation entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. On voit que là, dans ces paragraphes, dans ce dernier chapitre, vous répondez à des problèmes actuels. Ou plutôt vous demandez à Saint-Louis d'y répondre.
Je demande à Saint-Louis d'y répondre parce qu'il y a été confronté de façon extrêmement concrète. Hein. Alors lui n'a pas théorisé tout ça. Souvent ça vient après ou en même temps. D'ailleurs, je rappelle que Saint-Louis est le contemporain de saint Thomas d'Aquin. Et quand saint Thomas d'Aquin écrit sa somme théologique et notamment la partie dédiée à la guerre juste, hein, avec ses trois conditions que vous connaissez bien de la guerre juste, hein, une autorité légitime, une juste cause, une intention droite. Il a sous les yeux le modèle idéal du chef d'État et du bon usage de la force. Il l'a sous les yeux. Donc, en fait, on lui a simplifié, Saint-Louis, il lui a simplifié la tâche. Il a eu qu'à mettre par écrit ce qu'il voyait. Mais c'est quelque part, c'est ça, parce que c'est vraiment, il y a une véritable modération dans cet usage de la force qui est tout à fait exemplaire. Hein. Louis XIV dira à la fin de sa vie, j'ai trop aimé la guerre. Hein. Alors, je ne parle même pas de Napoléon, etc. Mais c'est vrai que c'était souvent une tentation chez pas que les rois de France, hein, mais chez les souverains d'une façon générale, de montrer leur puissance à travers leur victoire militaire. Ce qui est assez incroyable, c'est que Saint-Louis subit quand même une défaite majeure, à Mansourin, hein, au début de la croisade. Enfin, la croisade commence par une victoire avec la prise de Damiette, et puis quelques mois plus tard se termine avec une défaite cinglante, le roi est fait prisonnier. Eh bien, ça ne nuit pas à son prestige. Ça ne nuit pas à son prestige. Bien au contraire. Alors, ça a dû lui faire quelque chose quand même. Hein. Il faut pas s'aveugler, parce que ça l'a profondément meurtri. Ça, c'est sûr. Mais il en a tiré un surcroît d'humilité, de vie intérieure plus purifiée. Et l'on voit d'ailleurs que dans son long règne, c'est un règne de 44 ans, vous imaginez aujourd'hui, nous, au bout de 4 ans, on n'en peut plus. Quoi. 44 ans de règne.
Un quinquennat, c'est déjà bien long.
Un quinquennat, c'est déjà horriblement long pour nous. 44 ans de règne, eh bien, on voit vraiment la différence entre les 20 premières années qui sont dédiées à l'affermissement de son pouvoir à l'intérieur, donc c'est une succession de campagnes, etc. La croisade et le séjour en Terre Sainte, et les 15 dernières années du règne, hein, qui vont de 1254 jusqu'à sa mort en 1270 à Tunis, qui sont vraiment une période de grande maturité et où il y a très très peu, il y a même pas de guerre, hein, et il est vraiment dans l'apaisement et la pacification des relations à la fois intérieures et extérieures. C'est la grande ordonnance de 1254 qui met de l'ordre dans l'administration royale pour lutter contre la corruption, pour faire en sorte que ça soit la justice pour tous. Pour reprendre des slogans actuels. Voilà, mais c'est aussi, c'est le roi d'Angleterre, c'est comment on appelle ça, le Didamien, vous savez, en 1258 de mémoire, où c'est le roi d'Angleterre et les barons anglais qui sont en conflit interne, et les deux parties viennent solliciter Saint-Louis pour juger leur affaire, quoi. Voilà, à Amiens. Non, mais inimaginable aujourd'hui, quoi. Ouais. Quand le président est élu, il va se prosterner à Berlin, à Bruxelles, à Washington. Bon, ben là, c'était l'inverse. Si vous voulez. C'était quand même une autre époque.
J'aimerais rappeler d'ailleurs aux auditeurs de Radio Courtoisie que vous avez été officier, donc tout ce qui touche à la guerre, eh bien, vous voyez cela de façon non pas simplement théorique, et que vous avez d'ailleurs toujours aux éditions Via Romana, consacré un livre à ce sujet qui s'intitule « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». Donc c'était en 2018, Via Romana, « Si tu veux la paix, prépare la guerre » de François-Régis Le Grier, que j'ai la joie de recevoir cet après-midi. C'est ce qui vraiment me semble un petit peu une gageure, cet ouvrage, c'est comment vous arrivez à concilier cette transcendance, parce qu'il n'y a aucun doute, c'est un roi qui est habité par la foi, et puis ce sens du concret et même du détail qui le fait si proche de nous, si enraciné, si ancré dans notre quotidien. Parce qu'on se dit toujours, les saints, ils sont dans leur niche, et puis ils n'en descendent pas, ils n'ont pas la même vie que nous. Et
oui, si Saint-Louis s'était contenté d'être un roi pieux, on aurait fait comme Robert le Pieux, on l'aurait appelé Louis le Pieux. Mais c'est beaucoup plus que ça. Et sa sainteté, elle vient vraiment de son unité intérieure. Et c'est très intéressant parce que, voyez-vous, j'ai sous les yeux la biographie monumentale de Jacques Le Goff de Saint-Louis, hein, qui fait plus de 1000 pages, hein, qui est remarquablement documentée, c'est passionnant, et dont je me suis évidemment largement inspiré pour les références historiques, etc., puisqu'il fait un peu je pense que c'est ce qu'il y a de plus actuel. Mais parfois, on a le sentiment que Jacques Le Goff, qui n'est pas, qui à ma connaissance n'est pas chrétien, enfin, il perçoit, mais il ne va pas au fond en fait des choses. Et il se pose la question quelle fut l'habileté de Saint Louis. Alors il répond, il a su concilier éthique et politique. Bon, ça mange pas de pain d'écrire ça. Très bien.
On voit ça sur toutes les affiches électorales,
oui,
je vais vous dire.
Oui, voilà, oui.
Non, et ça n'engage que ceux qui y croient.
C'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. et il faut vraiment aller à la source. Et c'est pour ça, encore une fois, que je commence par le sac, parce que Saint-Louis, il laisse entendre que Louis avait 12 ans quand il a été sacré roi de France. Il laisse entendre qu'il n'aurait pas compris grand-chose aux paroles du sac. C'est vrai que c'était une longue cérémonie, etc. Mais moi, je suis persuadé que même s'il n'avait que 12 ans, mon dernier ayant 12 ans, je vois très bien dans quel état d'esprit on est. Mais je pense qu'il avait conscience, il avait parfaitement conscience de ce qu'il était en train de réaliser, surtout qu'à cette époque-là, on était certainement plus mûrs qu'aujourd'hui. Et donc, il avait conscience de l'importance de son sacre. Il a voulu vivre le serment du sacre jusqu'au bout, dans ses moindres détails, et vivre de cet écoulement de la grâce. Hein. La grande oraison du sacre parle de l'écoulement de la grâce divine, et il a voulu lui-même être l'écoulement de cette grâce divine vis-à-vis de son royaume. Et donc sa force, son secret, d'autres diraient son habileté fut d'être juste. Ça, je crois que c'est Fustel de Coulanges qui dit ça. Alors, c'est pas faux, mais c'est plus profond que ça. Son habileté, c'est plus une habileté, c'est sa profonde unité intérieure qui lui fait. C'est cette source, spirituelle qui véritablement l'anime en permanence, que ce soit dans les victoires, les défaites, les échecs, les difficultés, etc. Et où est-ce qu'il puise cette source spirituelle? Il la puise d'abord dans la messe quotidienne, ou voire parfois deux fois par jour. Il la puise dans la récitation quotidienne des psaumes. Et ce n'est pas à vous que j'apprendrai que les psaumes, peut-être 90 ou 95% des psaumes, parlent de la justice divine. Voilà. Donc quand vous récitez ça tous les jours, pendant 44 années de règne, à un moment donné, il se passe quelque chose, c'est-à-dire que cette justice divine, elle vient transfuser, vous dilater votre action politique, et elle vient littéralement irriguer les décisions de Saint-Louis dans ce qu'elles peuvent avoir de plus concret vis-à-vis des petites gens notamment. Et ce qui est frappant et ce qui est peu connu, par exemple, c'est les enquêteurs que Saint-Louis va envoyer dans les provinces du Sud, qui ont eu à souffrir de la croisade des Albigeois. Et donc, ces enquêteurs vont enquêter, et ils ont pour mission d'indemniser tous ceux qui auraient eu à subir des préjudices de la croisade. Dans son action judiciaire, dans sa réforme de la justice, Saint-Louis fait en sorte également de protéger notamment les femmes, des féministes avant l'heure, voyez-vous. Non, mais il veille à ce que, si un mari est condamné pour différentes bêtises, il interdit à ce que les biens de son épouse soient confisqués. Voyez, ça va très loin dans le détail. Donc la récitation des psaumes, c'est quelque chose, c'est véritablement sa nourriture spirituelle qui à mon sens, dilate toute son action.
Parce qu'il ne faisait pas que les réciter, il les mettait en pratique.
Et c'est vrai que vous avez parlé de la mort de Saint-Louis. Alors, si vous avez noté, j'ai mis la mort de Saint-Louis dans le chapitre qui est vraiment dédié, je confesserai ton nom, à la compréhension un petit peu de ce que c'est que cette vie religieuse chez Saint-Louis. Voilà, ça dépasse de loin les dévotions. Alors, il accomplit un certain nombre de dévotions, mais qu'on ne serait peut-être pas obligé d'accomplir aujourd'hui, mais il faut aller à la source, quoi. Voilà, il faut aller à la source. Et moi, ce qui m'a véritablement frappé, c'est... alors, il avait beaucoup d'amitié pour... les cisterciens qui lui doivent l'abbaye de Royaumont dans l'Oise, mais sa proximité avec les ordres mendiants, un dominicain franciscain, et surtout les franciscains, c'est vraiment, il y a une grande proximité, dans une grande façon de faire. Alors, Saint-Louis n'a pas connu Saint-François d'Assise, qui est mort au moment de son sacre, quasiment, juste avant, je crois. Mais il a bien connu Saint-Bonaventure, qui a été le supérieur général de l'ordre des franciscains, qui a écrit une biographie de Saint-François en 1260, et donc on peut légitimement penser que Saint-Louis en a eu connaissance, et sa proximité avec les pauvres, avec les lépreux, à plusieurs reprises, est très parlante à cet égard-là, et puis sa mort... aussi est vraiment bouleversante. Donc vous savez qu'il part, il repart pour la 8e et dernière croisade en août 1270. Il a tombé très rapidement malade, comme d'autres autour de lui. Son fils Tristan, qui était mort, qui était né à la première, à la croisade précédente, meurt. Le légat du pape meurt également, et lui tombe également malade, et il va mourir sur un lit de cendres, là où saint François d'Assise est mort dans le dénuement le plus complet, à même le sol, en récitant les psaumes. Et quand vous lisez la biographie de saint François et celle de Saint-Louis, les psaumes se répondent. C'est vraiment, c'est très émouvant.
Enfin, et vous le faites d'ailleurs, on voit.
C'est bouleversant. Il y a un écho, voilà. Un écho profond. Et c'est pour ça, cette mort, on quitte le domaine de la politique, parce que beaucoup d'interrogations, on n'a pas le temps peut-être d'en parler, mais beaucoup d'interrogations se sont posées sur cette huitième croisade. Même le pape était lui-même un peu dubitatif, etc.
Là, il faut laisser aux auditeurs l'occasion de devenir vos lecteurs. J'ai reçu François-Régis Le Grier pour Saint-Louis, modèle des chefs d'État, aux éditions Via Romana. Pour 13 euros seulement, vous pouvez vous procurer ce petit ouvrage qui me semble un peu être l'anti-Machiavel.
C'est l'anti-Machiavel, c'est ça. Ouais.
Donc c'est à lire. Et ça me fait penser un petit peu à cette phrase du père de Breuil qui disait « Le chef n'est pas celui qui dirige, c'est celui vers lequel on se dirige.
Ouais. »
Parce qu'il est lui-même orienté.
C'est ça. Ouais.
Un grand merci, à bientôt.
Merci beaucoup,
monsieur l'abbé. Je reçois maintenant avec joie mon invité suivant qui se tient sagement à la régie et qui nous rejoint dans le studio, Christian de la Forêt d'Yvonne. Pendant qu'il s'installe, je voudrais juste faire une petite annonce. Les conférences Sainte-Cécile organisent le dimanche 29 mars à 17h30 une conférence littérature et musique dans l'œuvre de Molière, Lully et Charpentier par Patrick Metrop. Et cette conférence a lieu 20 rue Gerbert dans le 15e arrondissement. Les places sont limitées, donc il faut prévenir Marie-Yvonne Tréguier qui organise cette conférence au 06 81 69 90 04. D'ailleurs, ça n'est pas un hasard si j'annonce cette conférence, parce que est intervenu et interviendra certainement encore l'abbé Gélineau, que Christian de la Forêt d'Yvonne connaît bien. Je ne me trompe pas.
Effectivement, je connais très bien.
Très bien. D'ailleurs, vous collaborez avec lui. On peut dire donc dans ce centre de Grégorien Saint-Pilis, c'est ça ?
Voilà, c'est ça.
Alors, présentez-nous ce centre. Qu'est-ce que c'est ?
Le centre Grégorien est l'organisme de formation qui s'est créé à la suite de la Scola Saint-Grégoire du Mans, qui est héritière de la méthode dite de Solem, qui est la méthode qu'on utilise généralement et le plus universellement pour interpréter le chant grégorien. Donc c'était le chanoine Robin qui avait créé ce centre pour permettre à tous les gens de la tradition d'avoir un centre à leur disposition dans lequel ils pourraient retrouver non seulement le bon enseignement du grégorien, mais également l'esprit de la fraternité Saint-Pilis en général, disons, de ce qui tourne autour.
Et vous avez pris comme patron Saint-Pilis, vous auriez pu prendre Saint-Grégoire, parce que le grégorien, c'est Saint-Grégoire, mais c'est que vous revendiquez haut et fort Saint-Pilis, parce que sa première encyclique, elle ne traite pas du modernisme, elle traite de la musique. Preuve qu'il y avait, il avait un grand intérêt pour la musique.
Tout à fait. Le motto proprio de Saint-Pilis, qui date de 1903, du 22 novembre 1903, est le premier acte important du pape Saint-Pilis. Et d'ailleurs, le bénédictin Don Chauvin disait que c'était assez étonnant qu'il ait commencé par ça, mais quand on voyait la puissance, l'efficacité sur les âmes du chant grégorien, de la musique en général et du chant grégorien en particulier, finalement, il n'était pas si étonné.
Et alors, j'ai envie de vous poser tout de suite cette question. Vous-même, vous sentez cette puissance ? Est-ce que vous avez eu cette expérience ? Est-ce que, en clair, est-ce que grégorien convertit ?
C'est un fait historique. Vous me posez la question à moi personnellement. Oui, je peux en témoigner, mais je ne suis rien dans l'histoire du grégorien.
Des faits.
Mais c'est vrai que j'ai appris le grégorien enfant. Je l'ai entendu, alors c'était à l'époque à la chapelle du château de Versailles où je servais la messe. Donc j'étais baigné dans le grégorien. J'ai appris, d'ailleurs il y a 50 ans, j'ai fait votre connaissance. J'ai appris à goûter le grégorien au séminaire des Cônes, où j'ai passé une année. Et j'ai comme j'avais fait un peu de musique classique par ailleurs, je me suis intéressé au grégorien. J'ai chanté dans toutes les paroisses dans lesquelles j'ai pu passer au cours de ma carrière militaire. Et quand j'ai pris ma retraite militaire, j'ai décidé de consacrer le reste de ma vie, en particulier au grégorien.
Et alors, qu'est-ce que vous proposez? Parce qu'on peut se dire, c'est réservé à des spécialistes, le grégorien, c'est pour les moines. Et dans les paroisses, on fait ce qu'on peut. Alors, vous allez balayer, je pense, cette objection.
Non, non, au contraire, je pense que vous avez tout à fait raison. C'est hélas le constat. C'est que dans les paroisses, on fait ce qu'on peut et on se contente de cette bonne volonté générale. Donc, effectivement, on fait ce qu'on peut. Mais en fait, on pourrait faire autre chose.
On pourrait faire mieux.
On pourrait faire infiniment mieux et on a tout pour ça, sauf peut-être l'énergie initiale qui permettrait de lancer le mouvement. Alors, c'est ce que j'essaie de faire à ma modeste place. Mais on sent que beaucoup de gens sont fatigués. Et déjà aller à la messe avec les enfants, il y a les écoles, il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Et effectivement, la participation active à la messe, qui n'est pas une mauvaise chose en soi, passe un petit peu au second plan. On voit beaucoup de familles, même de musiciens, mais qui vont à la messe, qui participent pas à la chorale, ou des chorales qui chantent, sans beaucoup travailler. Les répétitions se font rapidement dans la demi-heure qui précède la messe. Et en fait, c'est très dommage parce que, à défaut de qualité, le chant grégorien ne peut pas, et c'est ce que dit Saint Pédis, ne peut pas produire les effets qu'on attend de lui. Si le chant grégorien a sa place dans les liturgies, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il a vraiment un effet puissant. Et on sait bien que les formes, on parle de la forme extraordinaire, c'est vrai qu'elle est extraordinaire, au moins au sens où c'est magnifique, elle est magnifique. Et c'est reconnu assez universellement, même des non-catholiques. Et beaucoup de catholiques viennent d'ailleurs à notre messe dite de Saint-Pie V à cause de sa forme. C'est ça qui les attire. Et la musique est un des points importants. Je ne voudrais pas dire essentiel, parce qu'évidemment l'essentiel n'est pas dans la musique, mais un des points importants qui permet d'attirer les gens. On prend toujours l'exemple de Claudel qui se convertit, mais il n'y a pas que Claudel. Je peux vous donner un autre exemple qui est moins connu, dans la vie de Saint Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul, vous savez, a été fait prisonnier, enfin, il était en fait prisonnier volontaire, plus ou moins, et fait prisonnier et vendu comme esclave en Algérie. Et c'était la maîtresse, enfin, la femme de son maître, qui l'a entendu un jour chanter, fredonner le Superflumina, cette antienne qui est l'antienne offertoire d'aujourd'hui d'ailleurs. Qu'on entend plus habituellement le 20e dimanche après la Pentecôte. Et en entendant ce chant, elle a été bouleversée par ce chant et s'est convertie. Donc c'est un exemple plus lointain, mais qui montre la puissance d'une simple mélodie. Bon, je dis simple, c'est quand même une des très belles mélodies grégoriennes, mais c'est une mélodie qui ressemble presque à une mélopée, tellement on sent le caractère de l'âme de cet exilé qui se souvient de Jérusalem alors qu'il était aux portes de Babylone.
Il était à Babylone, voilà, ils sont là et il pense à Jérusalem.
Il pense à Jérusalem et il en pleure.
Ma langue s'attache à mon palais si jamais je t'oublie Jérusalem, c'est ça.
Exactement.
Alors, plutôt que de parler de ce chant grégorien, on va peut-être l'écouter et je vais vous demander, si vous voulez bien, de l'analyser, de nous montrer comment la musique est tout à fait en phase avec le sens profond, enfin, puisque c'est ce que vous voulez nous faire voir au fond.
Ça pourrait être un bon exemple pour montrer la qualité qu'il faudrait chercher à obtenir. Parce que chanter comme on peut, comme vous disiez au départ, ça ne produira pas d'effet parce que ça ne sera pas très joli, ça ne sera pas très expressif et on a besoin d'un supplément d'âme pour arriver à exprimer ce que veut vraiment exprimer l'Église.
Alors, on va laisser la musique parler. Lord. Alors, nous venons d'entendre ce Super Flumina Babylonis interprété par les moines de
Solesmes.
Pour un béotien qui découvre cette pièce cet après-midi, on a l'impression que c'est très beau, c'est ample, il y a des montées, il y a des descentes. Mais vous qui êtes beaucoup plus au fait, vous allez nous dire un petit peu.
Alors, effectivement, vous avez... Si vous prenez la liturgie d'aujourd'hui, parce qu'il faut toujours replacer les pièces de Grégorien dans la liturgie. Dans la liturgie d'aujourd'hui, puisqu'on a cette offertoire-là, vous avez comme épître la prière d'Azarias, qui est un des enfants dans la fournaise avec Daniel, et qui en appelle à la bonté de Dieu et est-ce qu'il se souvienne de notre état d'exilé. Le chant grégorien utilise toujours plusieurs niveaux d'interprétation. Il y a la partie historique, où effectivement on est là aussi, à l'exil à Babylone. C'est le même exil, mais c'est nous aussi exilés du ciel. Et on a tous cette espèce de nostalgie en nous d'un ciel perdu, même si on a aussi l'espérance d'un ciel retrouvé plus tard. Vous avez l'évangile de Sainte Marie-Madeleine, qui est là en train de pleurer ses péchés. On a les mêmes sentiments, un petit peu différents. Elle pleure plus ses péchés à elle, alors qu'Azarias c'était plus sur les fautes du peuple hébreu. Et puis, on arrive donc sur cet offertoire. Alors là, vous avez une première phrase qui est comme une petite promenade musicale qui pourrait être assez gaie, super flumina. La mélodie s'élance et monte. C'est toute la structure de toutes les pièces de Grégorien est conçue comme ça. Vous montez vers un sommet musical. Sur lequel vous vous épanouissez. Il n'y a rien de trop piquant dans les sommets. C'est quelque chose d'arrondi, de doux, parce qu'on est dans le cadre de la liturgie et qu'il ne s'agit pas de heurter les sensibilités. Tout de suite après, vous avez le mot « Babylonis ». Donc vous êtes sur les bords des fleuves de Babylone, puisque vous êtes au confluent des deux fleuves. Et là, tout d'un coup, la mélodie qui repart du grave, beaucoup plus grave, va remonter presque aussi haut, mais par petites étapes. Babylone. Vous montez par petites étapes, et là, avec une interprétation intelligente, vous ralentissez un petit peu, parce que vous n'êtes plus dans la promenade agréable du soir, mais vous avez la conscience de ce que c'est que l'exil. Et donc, là, il y a une vraie souffrance qui s'exprime dans ce premier mot. Et ainsi se termine la première phrase. La deuxième phrase évoque le fait que l'exilé s'assoit. Donc, il s'assoit au bord des fleuves, du fleuve, et assez logiquement, ressort tout ce qu'il a sur le cœur, et vous avez l'émotion qui revient, et qui se traduit par « et flevimus », et il se met à pleurer. La mélodie interprète ça de façon assez, assez belle, puisque le Elix Sedimus est l'âge, nous nous assoyons, est assez tranquille, mais se ralentit peu à peu parce qu'on sent que l'émotion doit gagner le témoin, et il se met à pleurer. Et là, la mélodie se fait presque octante, on dirait presque des annèlements de pleurs d'enfants où on sent que l'émotion monte, gagne, et puis se redétend et revient. Et il y a quelque chose d'extrêmement expressif dans cette partie-là. Après cette deuxième phrase, donc entre les phrases, vous avez toujours un instant de silence qui vous permet à la fois de goûter ce que vous avez entendu et de vous préparer à la suite. Beaucoup de chorales ont tendance à ne pas tenir compte de ces silences, à n'en pas apprécier la valeur. Ensuite, vous avez le « Dum recordaremur », donc c'est le grand souvenir. Donc là, on imagine l'exilé qui est là et tout d'un coup se présente à son imagination le grand Jérusalem, grand Sion de l'époque, avec tous les bonheurs. C'est notre ciel à nous, c'est notre ciel perdu, c'est le paradis terrestre. Et là, vous avez un grand élan musical qui repart du grave et qui monte. Mais alors, contrairement à Babylonis qui montait par petites étapes, un petit peu... avec des efforts. Ici, ça monte tout d'un coup dans une envolée mélodique qui est très jolie et qui redonne de la gaieté. Et on pourrait dire que c'est notre part d'espérance aussi. C'est le souvenir du passé, mais c'est aussi l'espérance de l'avenir. Et puis après, Tui, Sion. Tui, Sion, c'est Sion. Et là revient le souvenir qui lui fait mal. Et là, toute la fin, très ralentie, avec des petites montées mélodiques qui s'arrêtent, qui sont toujours par étapes, avec des petits crescendo, etc., qui vont permettre de redonner ce côté souffrant. Et ça s'achève par une petite détente, une petite ondulation sur la mélodie, dans la dernière syllabe, sillonne, et la mélodie. Et on sent que là, on respire, on se détend, et après, on retrouve la paix. C'est ce qu'on cherche à la fin de chacune des pièces de Grégorien.
Vous nous avez merveilleusement expliqué. Je vais demander à Benoît s'il peut nous repasser cet extrait, maintenant que vous l'avez éclairé pour nous. Donc, voyez comment on monte à Babylone de façon un petit peu pénible et comment est-ce que l'on monte d'un trait vers le ciel. Et puis après, j'ai une question à vous poser très pratique. Recevoir cet après-midi Christian de la Forêt-Divonne, qui est responsable de ce centre grégorien Saint-Pédis. Nous venons d'entendre, il faut le dire, ce psaume Superfumina Babylonis, dont il nous rappelait qu'il avait converti une femme musulmane qui entendait Saint-Vincent de Paul le chanter. Moi, j'ai envie de vous poser cette question, Christian de la Forêt-Divonne. Est-ce que vous expliquez cela lors de vos sessions?
Non seulement on explique, mais on fait en sorte que les chanteurs soient capables de faire cela et les chefs de chœur soient capables de diriger et de savoir ce qu'il faut obtenir de telles pièces.
Donc ils vont convertir plein de gens.
Mais c'est le but.
Donnez-nous en détail déjà où ça a lieu, quand ça a lieu et comment, qu'est-ce que vous proposez très concrètement? Où et quand d'abord?
Alors où et quand alors c'est très vaste parce que le chœur c'est Mérigny. Donc nous sommes hébergés par la Fraternité de la Transfiguration depuis plus de 20 ans et nous faisons 3 sessions par an à Mérigny, une en février pendant les vacances qui correspondent généralement aux vacances de Paris et puis 2 l'été, une en juillet, en août. Cette année, il y en aura 2 en juillet qui sont ouvertes en fonction des cursus demandés. Alors, je vais rentrer. Oui. Après, si dans les lieux, je pourrais ajouter que nous intervenons assez régulièrement un peu partout. Donc, nous faisons des sessions locales. Par exemple, il y a une section qui a été faite, organisée à Paris en début d'année, dans des villes comme Nancy ou d'autres villes. Et puis, on a eu l'occasion aussi d'intervenir un petit peu à l'étranger. Je suis allé faire une session pour les religieuses les Consolatrices du Sacré-Cœur à Vignes de Narny. On intervient pas mal auprès de
votre famille doit être peut-être.
En l'occurrence, j'ai une sœur qui est religieuse là-bas, donc j'étais encore en famille. Ma femme pouvait suivre. Mais il est vrai, si je prends des expériences un peu plus lointaines, comme au Brésil ou en Nouvelle-Zélande, là, effectivement, c'est un séjour un peu solitaire. Et ça, c'est plutôt au profit des communautés religieuses, mais parfois aussi, comme au Brésil par exemple, auprès d'une communauté religieuse et en même temps auprès des fidèles. Donc en alternant dans la journée une partie pour chacun. Donc ça c'est pour les lieux et pour les dates en fait.
Et donc ensuite, on peut déjà donner peut-être les dates, vous dites 2 en juillet. 2
en juillet, une du 5 au 11 juillet.
5-11.
Et une du 26 juillet au 1er août.
D'accord. Et si l'on veut s'inscrire, vous avez...
Il faut aller sur le site du Centre Grégorien Saint-Pédis.
Voilà, on tape sur moteur de recherche tout simplement, Centre Grégorien Saint-Pédis, il n'y en a pas deux, voilà. Il n'y en a qu'un, et c'est vous, vous êtes unique.
Exactement.
Et on a toutes les...
toutes les formalités d'inscription.
Parfait, parfait. Alors maintenant, comment est-ce que ça se passe? Vous disiez qu'il y a plusieurs cursus, parce que moi je ne suis pas moine de Foncombeau, qu'est-ce que vous pouvez me proposer?
Alors en fait, on a... parallèlement à la formation grégorienne, je mets tout de suite de côté, c'est la formation à l'accompagnement. Parce que l'orgue peut accompagner parfois des pièces de grégorien, je pense particulièrement au Kyrielle ou au Credo. On essaie d'éviter d'accompagner les pièces du propre. Donc il y a une session qui est justement organisée par l'abbé Louis-Marie Géhinot, dont vous parliez tout à l'heure. Alors c'est lui qui se charge de ça. Alors, à part ça, pour les chanteurs, nous avions jusqu'à cette année principalement deux niveaux. Le niveau d'initiation, qui s'adresse à des gens qui chantent juste, mais qui n'ont pas beaucoup de compétences, mais qui veulent se former sérieusement. Et cela donne ensuite lieu à un deuxième niveau pour le perfectionnement. Donc, le premier niveau, c'est plutôt de la formation individuelle, le chant, la qualité du chant propre, la technique vocale même. On a un professeur de technique vocale qui vient pendant la session. Et puis, la lecture de la partition, savoir déchiffrer, comprendre comment ça fonctionne, comment fonctionne le rythme de la musique, comment fonctionne le phrasé, comment on trouve le phrasé d'une pièce. Et puis aussi, des enseignements un petit peu annexes, mais qui sont importants pour nous, comme le latin. Savoir bien articuler, prononcer le latin ou des choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt la première année. Et la deuxième année, le deuxième niveau, se consacre à l'interprétation collective. Donc c'est un travail de cœur. Donc chacun sait comment chanter, chacun sait déchiffrer, et on travaille les pièces pour arriver à obtenir ce que vous avez entendu tout à l'heure, ou le plus proche possible. Ça, ce sont pour les degrés de choriste. Et nous avons cette année lancé un autre degré, parce qu'on nous l'a demandé et que c'est intéressant, un degré de découverte. Pour des gens qui ne souhaitent pas forcément, au départ au moins, faire une formation complète, qui ne font pas forcément partie d'une chorale, mais qui s'intéressent aux grégoriens, qui voudraient voir comment ça fonctionne, par curiosité, par intérêt pour le moment peut-être embryonnaire, mais on ne sait pas ce que le développement donnera plus tard. Voilà, donc on va commencer cette année avec des stages de découverte. Après les choristes, eh bien, il faut former les chefs de chœur. Et c'est peut-être le point le plus délicat, parce qu'un chef de chœur, c'est quelqu'un qui sait être choriste, parce qu'il doit savoir maîtriser à peu près ce qu'il demande aux autres. Donc ça présuppose d'avoir fait les deux années de formation de choriste. Et puis ça demande des qualités personnelles aussi, pour pouvoir diriger, ça n'est pas donné à tout le monde. Et en plus, il faut du temps. Or, c'est un petit peu difficile de trouver des gens qui ont à la fois du temps, à la fois toutes ces qualités-là. Ce sont souvent des jeunes messieurs, mais qui sont jeunes pères de famille, qui n'ont pas le temps de passer une semaine à Mérigny, qui sont souvent débordés. Et d'ailleurs, en passant, je profiterai pour faire une petite, un petit appel quand même.
Oui.
Parce que je trouve qu'on est vite débordé et incapable de trouver une semaine pour se former. Incapable de trouver une demi-heure pour faire une répétition de chorale, incapable de trouver du temps pour faire en sorte que la liturgie soit belle. Et je trouve ça un peu curieux et un peu dommage.
Alors qu'on a beaucoup de temps pour beaucoup d'autres choses très...
Voilà, oui. Alors, je ne sais pas à quoi vous faites allusion, mais oui, on a beaucoup de temps pour d'autres choses.
Vous voyez qu'on on voit peut-être justement le chant de façon un peu prioritaire. Au fond, comme Saint-Pédis avait fait, lui, au début de son pontificat, il dit la priorité, c'est le chant.
Oui, c'est le chant, c'est la formation aussi, parce qu'il insiste beaucoup sur la formation, et non seulement des séminaristes, mais il dit aussi que dans toutes les paroisses, il doit y avoir des chorales et une formation des chorales. Et cette formation existe, les professeurs existent, même si l'orage avance, il va falloir penser aussi à renouveler. Et j'en profite pour rendre hommage à M. Philippe Bévillard, qui était parmi nous extrêmement longtemps et qui a quand même été au centre jusqu'à l'âge de plus de 85 ans à donner des cours.
Alors, j'ai envie justement de vous poser une question sur l'âge, ce sera malheureusement notre dernière question. Est-ce qu'il y a un âge minimum pour faire partie de vos sessions? Est-ce qu'il y a un âge maximum? Est-ce qu'il faut avoir mué? Est-ce qu'il faut ne pas avoir un vibrato sénile? Qu'est-ce que vous demandez?
Pour diriger, peu importe le vibrato sénile, ce n'est pas très grave. Pour chanter, à partir du moment où on chante juste, il n'y a pas de conditions absolument draconiennes. Simplement, c'est vrai que si dans les écoles on formait un peu plus tôt les élèves, un plan très simple, un quart d'heure par jour en primaire pour apprendre à chanter avec la méthode Ward et puis quelques mouvements expressifs, au collège comprendre comment fonctionne le rythme grégorien et puis apprendre comment c'est les gestes de direction, et on aboutirait au lycée à enseigner aux jeunes à diriger. Et je pense que ce serait un très bon marchepied pour venir se former après dans les sessions de direction, où nous avons deux degrés, un à l'initiation à direction et le deuxième de perfectionnement. Alors là, on peut faire plusieurs fois ce degré pour arriver à concevoir la direction et à l'obtenir tel que vous l'avez entendu à Solem tout à l'heure.
Alors, cher Christian de la Fanivonne, vous allez revenir. Je vous demande de récidiver, il va falloir revenir parce qu'on ne peut pas tout traiter, mais vous nous avez déjà donné de façon très suggestive envie. Donc, je rappelle, vous tapez sur un moteur de recherche, chers amis, Centre Grégorien Saint-Pédis, et vous avez tous les renseignements sur la session dont nous vous parler et dont nous reparlerons bientôt.
Très bien, merci.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Traditions créé par Claude Giraud et dirigé par l'abbé Alain Laurence, diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 26 mars 2026 de 14h à 15h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.